Salut à tous et bienvenue dans ce hors-série de Tech Café que nous nommerons humblement la chronique des composants premier épisode. Je suis Guillaume Vendée, je suis accompagné de Guillaume Pogliaspala. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Guillaume.
Alors, les petites coulisses de ce hors-série, c'est que tous les 15 jours, on enregistre donc Tech Café et Guillaume a toujours quelques sections qui nous relaient un petit peu la vie de l'électronique, de ce qui fait un petit peu le cœur des appareils qu'on utilise aujourd'hui et qu'on utilisera demain. On parle souvent de nanomètres, de la façon dont sont conçus les microprocesseurs. Et j'ai, alors je te le dis régulièrement, mais je peux le dévoiler à tout le monde, on a des retours différents sur tes chroniques. Il y a des personnes qui considèrent que cette chronique, c'est l'élément qui fait que Tech Café a du sens pour eux, donc ça apporte vraiment quelque chose par rapport aux autres podcasts sur les nouvelles de la tech. Et puis il y a d'autres personnes qui sont complètement noyées, c'est-à-dire que quelle que soit la manière dont on aborde cette chronique, ils comprennent pas ce qui s'y passe, d'où l'envie d'une part de séparer un petit peu les deux dans deux émissions différentes, comme ça vous avez potentiellement qu'une seule des deux émissions à écouter, ou pourquoi pas si vous retrouvez dans les deux émissions, bah, vous écoutez les deux, et auquel cas vous avez une présence de Tech Café toutes les semaines, puisque entre deux épisodes de Tech Café vous aurez donc a priori un hors-série de la chronique de composants. On va essayer de syndiquer ça comme ça, Guillaume. Évidemment, si jamais il s'avérait qu'à un moment donné il n'y ait pas forcément de news, pas forcément d'infos, je crois que c'est pas forcément arrivé pour l'instant qu'il n'y ait pas vraiment d'infos sur ce domaine là mais si jamais ça devait arriver qu'il n'y ait rien à dire, on ne prendrait évidemment pas la parole avec un hors-série. C'est un petit bonus qu'on fait pour vous. Et puis juste une petite anecdote pour dire que on a toujours en préparation le financement par contribution de votre part par mécénat pour le podcast, et qu'évidemment cette chronique des composants ne vient pas être comptée comme un épisode à part entière pour lequel vous seriez débité, donc pas d'inquiétude, ça ne change rien au format de financement habituel. Guillaume, un premier sujet pour se lancer dans cette chronique. On a parlé la semaine dernière de l'annonce du MacBook par Apple. On était avec Pierre-Olivier, on a parlé également du Chromebook Pixel nouvelle génération. Et ces deux appareils sont annoncés comme fonctionnant avec l'Intel Core M, qui est un microprocesseur qu'on n'a pas beaucoup vu, je crois, dans les appareils ces derniers temps, et pour cause. Et je crois qu'il n'est pas très répandu. Et on a tous un petit peu du mal à savoir ce qu'on va pouvoir faire avec ce processeur. Est-ce qu'il carbure ou est-ce qu'il est complètement moisi tellement il économe en énergie ?
En fait, c'est le premier de sa génération, on va dire, puisque donc jusqu'à présent, on avait les cores de quatrième génération, les Haswell, et les cores de cinquième génération, Broadwell, voilà, exactement, de nos codenames Broadwell, viennent d'apparaître avec ces... alors, il n'y a pas que le Chromebook Pixel et le MacBook qui sont équipés de Broadwell, mais en fait, disons que c'est deux machines qui ont retenu notre attention. Et donc, quelle est la différence avec la génération d'avant? Elle est quand même assez importante d'un point de vue des usages, puisque c'est ce qu'on appelle un die shrink, c'est-à-dire que c'est une miniaturisation de l'architecture. Donc, fondamentalement, c'est à peu près le même processeur que l'année dernière, sauf qu'il est gravé plus petit, et que donc il consomme beaucoup moins d'énergie. On peut tabler sur une division par deux, pratiquement, de la consommation énergétique. Et aussi, il y a une réduction de la taille du chipset, en particulier pour ce Core M, qui est vraiment spécifique et qui est vraiment prévu pour consommer le moins possible et avoir la taille la plus petite possible. Ce genre d'économie est très importante, puisque je pense que c'est pas du tout étranger au fait que le MacBook qui a été annoncé donc la semaine dernière pour nous, soit le plus petit et le plus léger qui ait jamais été fait, tout simplement parce que c'est vraiment un processeur qui est extrêmement économe en énergie. Donc il est gravé en 14 nanomètres, effectivement, c'est un processeur qui néanmoins n'est pas très puissant, il faut quand même pas rêver, c'est un double cœur qui supporte 4 threads, 4 flux d'exécution. Il est à 1 GHz de base, avec une fréquence turbo boost de 2,6 GHz, c'est-à-dire que sur des petits intervalles de temps et sur un seul cœur, donc un seul cœur, si on sollicite un seul cœur, il peut monter beaucoup plus haut, à 2,6 GHz, ce qui permet d'absorber comme ça les petits coups de boule, les petits coups de boost, quoi. Mais globalement, ça reste une machine qui est assez faible, et il faudra pas se faire d'illusions sur les performances du MacBook ou du Chromebook Pixel. On est plus dans le domaine du netbook que vraiment du Ultrabook, justement. Hein, ce sont des performances qui sont assez modestes.
Mais c'est d'ailleurs comme ça qu'il a été introduit, j'allais dire, dans la keynote, puisque clairement, Tim Cook mentionnait, je crois, les netbooks. Et effectivement, je crois que c'est vraiment comme ça qu'il se positionne. Typiquement, avec un MacBook Air, j'imagine qu'on ne peut pas forcément jouer ni regarder trop de vidéos sans que le ventilateur souffle. Alors là, on sait qu'il n'y a pas de ventilateur, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas faire beaucoup plus de choses en termes de puissance. Par contre,
non, c'est la même chose en fait. Hein.
Par contre, il chauffe moins, quoi, du coup.
Oui, exactement. Comme il chauffe moins, en fait, c'est justement parce que Broadwell est aussi économe en énergie et représente un gain aussi important par rapport à la génération d'avant qu'on peut justement se passer de refroidissement et opter pour le tout passif. Donc en fait, on a à peu près la même puissance, on a peut-être une légère baisse de puissance par rapport à la génération d'avant sur la même gamme, évidemment, sur le même créneau, mais on a aussi, disons pour le même prix, on a aussi une baisse de la chauffe qui est très importante, qui est à mon avis vitale d'ailleurs pour ce genre de machine. Quant aux performances graphiques, il ne faut pas espérer jouer à quoi, on peut jouer à rien avec, sauf à des jeux 2D ou vraiment très peu gourmands, puisque c'est une carte graphique intégrée Intel qui est dedans, et bon, c'est sûr qu'il ne faudra pas lui demander des miracles. Hein.
Ouais, du coup, ça veut clairement dire, et après on va passer aux autres sujets, mais ça veut dire que si j'essaye de faire mon raisonnement jusqu'au bout, un ordinateur aussi fin, c'est pas possible avec un ventilateur, et il est pas possible de se passer de ventilateur avant qu'apparaisse l'Intel Core M pour les usages dont on a besoin pour.
Que ce soit pas possible, disons que c'est beaucoup plus simple. On va dire que le form factor de l'ordinateur du MacBook étant très contraignant, c'est sûr que c'est très précieux d'opter pour Broadwell par rapport aux générations précédentes.
D'accord. Donc, belle innovation d'Intel, du coup, qui profite à Apple. On va refaire le tour, du coup, des autres sujets que tu avais notés pour cette première chronique. Nvidia qui annonce du nouveau. Alors là, ça vaut peut-être le coup de rappeler les grands acteurs. Il y a Nvidia, il faut peut-être rappeler...
Au niveau des cartes graphiques, oui, mais Non, mais c'est plus une infogag, hein, parce que bon, c'est Nvidia donc, qui est un des deux grands constructeurs de cartes graphiques. Alors, on va dire que de la carte graphique, on connaît AMD donc, qui a sa ligne Radeon et Nvidia qui a ses lignes GeForce. Faut pas oublier qu'il y a aussi Intel qui produit énormément de cartes graphiques, même si elles sont toutes intégrées au chipset ou carrément au processeur.
Elles sont pas connues pour leur performance débordante, celles-ci.
C'est vrai, mais ça monte régulièrement et ça devient, même pour les meilleurs, ça devient relativement... ça devient relativement comparable aux toute entrée de gamme des cartes graphiques qui sont pas intégrées, quoi, des cartes graphiques sur PCI.
Alors, on parlait des Mac d'ailleurs, les MacBook Pro là, ils tournent avec quoi comme partie graphique d'ailleurs, tiens. Je vais les regarder,
MacBook
excuse-moi.
MacBook Pro, je sais pas. Tu peux regarder, si tu veux. C'est vraiment des grosses cartes. Et bon, ouais, mais c'est vrai qu'on avait pointé le Titan X. Ah, Nvidia sort un monstre complet. Honnêtement, je ne sais pas si le prix est déjà connu, mais c'est au moins 1 000 $ la carte, minimum. Et c'est la dernière génération, c'est 12 gigaoctets de mémoire, 8 milliards de transistors. C'est absolument n'importe quoi.
Je me rappelle à l'époque où je faisais tourner Half-Life, moi, sur mon PC, j'avais très très loin de ces valeurs-là en carte graphique, effectivement.
Je sais même pas si c'est une GTX 900 et des bananes ou si c'est un autre truc, je sais même pas. Enfin, dans tous les cas, voilà, c'était pour faire le grand écart, on va dire, entre les Broadwell tout petits, tout mignons, et ce genre de monstre qui doit consommer je sais pas combien de centaines de watts.
Et qui porte extrêmement bien son nom.
Donc il y a vraiment tous les, voilà, il y a un spectre très très large dans les composants.
Pour les cartes graphiques des MacBook Pro, on est sur l'Intel Iris Graphics. Donc c'est de l'Intel, effectivement. On mentionnait la famille Intel, et ben voilà. Alors, un petit tour sur la Developer Conference pour les jeux, Gaming Developer Conference. Évidemment, le jeu, c'est aussi un des grands trains qui fait avancer le monde des composants informatiques, parce qu'évidemment, plus de performances informatiques amènent à des qualités de restitution des jeux de plus en plus puissantes, même si c'est pas les seules applications des composants graphiques. Alors, un petit tour de ce que tu as pu relever d'ailleurs sur ce sujet qu'on a subtilement évité dans Tech Café pour les mentionner sur série.
Écoute, c'était la GDC il n'y a pas très longtemps, hein, donc je ne sais pas si tu as un petit peu suivi. La GDC de la Game Developer Conference, c'est l'occasion de montrer pour les développeurs, les acteurs les majeurs de l'industrie du jeu vidéo, de montrer un petit peu leurs nouveautés. Et donc, il y a eu, bon, alors j'avais annoncé aussi dans un tech café précédent qu'il allait y avoir pas mal de VR, et donc pour faire suite à
Réalité
cette news,
virtuelle.
effectivement, il y a eu pas mal de réalité virtuelle. En particulier, on a eu. Donc l'annonce du casque de Valve, qui sera donc fabriqué par HTC, qui s'appelle le Vive, le Vivi, le Vivi, je ne sais pas trop comment dire. En fait, tous les cas, c'est un casque qui est extrêmement moche, qui te fait ressembler à un abruti, parce que bon, il est même plus gros que enfin, je crois qu'il est à peu près de la taille du Morpheus, remarque. Enfin, j'ai l'impression qu'il est plus gros que l'Oculus. C'est un casque de réalité virtuelle, donc vous le mettez sur votre tête, vous avez une espèce d'énorme truc noir avec deux lentilles et tout ça vous immerge dans une autre réalité. Et en fait, d'après les retours, il est vraiment très bien. Il marche très très bien. Alors pourquoi il marche mieux? Alors est-ce qu'il marche mieux déjà? C'est toujours, c'est pas trop parce que l'Oculus n'est pas finalisé, Morpheus, je vais en toucher 2 mois après. Donc les casques de réalité virtuelle, ils commencent à en fleurir un petit peu de partout. Il y en a beaucoup. Hein, donc celui de Valve, en fait, on savait que Valve travaillait dessus depuis des années déjà. Et apparemment, il est très réussi parce que, bon, d'une part, il possède une qualité d'affichage qui est au moins comparable à celle de l'Oculus. On a des écrans qui sont des écrans OLED qui sont rafraîchis à une très haute vitesse pour éviter qu'il y ait du lag, pour que en fait les mouvements suivent de manière très précise ceux de votre tête. Et puis le truc en plus, c'est deux petites stations qui doivent être posées dans la pièce où vous allez utiliser le casque, qui permettent de repérer le casque en 3 dimensions. Parce qu'effectivement, quand vous bougez la tête, donc le casque a des capteurs qui repèrent les rotations. Prenez la tête dans un sens ou dans l'autre, vers le haut ou le bas. Par contre, quand vous bougez votre corps, il faut bouger son corps, et manger 5 fruits et légumes par jour. Donc vous
Manger,
avez.
bouger, ouais.
Moi j'ai bougé, voilà. Vous avez des translations aussi, c'est-à-dire quand vous avancez comme ça votre dos, quand vous vous accroupissez, quand vous vous couchez par terre, quoi. Et ça, effectivement, il faut en tenir compte aussi, pour pas que vous soyez malade au bout de 10 minutes. Et donc, il y a effectivement des capteurs laser qui sont disposés, disons, enfin, il y a deux capteurs laser, les lighthouse, qui sont dans la pièce, et qui regardent donc le casque, comme ça, de loin, et permettent de retranscrire tous les mouvements. Ça marche très bien, a priori, l'immersion est très bonne, et ça a l'air d'être du niveau d'Oculus. Et donc, bah, il y a non seulement le HTC, mais il y a aussi celui de Sony, hein, donc le Morpheus, qui reçoit une grosse mise à jour, qui a été présentée au GDC. Donc, on a voilà, un écran plus fin, qui est rafraîchi de manière plus fréquente. Donc, on est à 90 Hz, je crois, ou 100 Hz, je ne sais plus exactement. Enfin, en tout cas, on est à des fréquences très élevées. On a un champ de vision plus important.
C'est Sony, hein, Morpheus, c'est ça?
Absolument, et il est prévu pour fonctionner avec la PlayStation 4, ce qui est probablement le truc le plus inquiétant à propos du Morpheus, vu la puissance quand même assez limitée de la PlayStation 4 par rapport au PC sur lesquels on peut faire tourner les autres casques, quoi. Mais bon, apparemment, les gens ont été quand même assez conquis par le nouveau Morpheus, qui apparemment est quand même bien meilleur que l'ancien et qui fonctionne bien. Globalement, voilà les news sur la VR. Alors il y a eu d'autres trucs qui se rument. Voilà, il y a même des rumeurs selon lesquelles il y aurait une version d'Android exprès pour la VR.
Bon, on sait que ce serait pas étonnant que ce soit en réflexion en tout cas.
Pas du tout. On sait d'ailleurs que Google était quand même un des pionniers sur la réalité virtuelle, on va dire, d'entrée de gamme avec le cardboard, qui est donc cette espèce de masque en carton dans lequel on glisse, dans lequel on peut avoir des expériences comme ça, assez simples, mais néanmoins convaincantes de réalité virtuelle. Donc c'est pas du tout étonnant. Et donc voilà, la réalité virtuelle se porte bien. Il y a le casque de Razer aussi qui a été mis à jour. On a des nouvelles sur encore un autre casque. Donc des casques, il y en a plein. Voilà, que ce soit Oculus, que ce soit le Vivi, le Morpheus, que ce soit les HoloLens, voilà, des casques de réalité virtuelle ou augmentée, ça y va, quoi. Je sais que c'est un truc qui te passionne pas, mais apparemment, ça a l'air d'être un créneau dans lequel personne ne veut être absent, quoi.
C'est pas que ça me passionne pas, on a vu ce débat effectivement il y a 2 épisodes de Tech Café maintenant. C'est vraiment, j'ai du mal à penser que, bon, effectivement, moi c'est pas forcément quelque chose que j'attends, mais j'ai une Xbox 360, je m'en sers pas, je la lance pas souvent, j'imagine que les seuls moments où je vais la lancer, elle va me demander des mises à jour, mais surtout parce que j'ai pas le temps. Donc j'avoue que je suis pas un très très gros consommateur de jeux de consoles de salon de mon côté, et du coup j'ai encore plus de mal à me projeter pour faire plus que du jeu de salon classique, manette, manette écran télé, j'ai du mal à m'imaginer faire du jeu en réalité virtuelle chez moi. Mais pourquoi pas ? Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est vraiment là le cœur du débat qu'on avait, quelque chose qui aura la même répercussion dans les ménages que la 3D dans les télés de salon, quoi. Donc je caricature peut-être beaucoup, mais j'ai le sentiment que ça va pas forcément exploser parce que les gens ont pas envie d'avoir tout ce barnum autour d'eux pour jouer. Mais je me trompe probablement, et puis il y aura des évolutions qui vont faire que ce sera de plus en plus accessible, pas forcément d'un point de vue tarif, j'allais dire, mais peut-être d'un point de vue aussi occupation de l'espace et puis facilité d'adoption dans les usages. Donc
il y a un petit indice là-dessus sur les stratégies justement utilisées par les constructeurs. Donc, les constructeurs, ils vont souvent full frontal. On sort un casque, ouais. On essaie de faire en sorte qu'il soit le mieux fini et qu'il file le moins la gerbe possible. Ouais. Et après, advienne que pourra. Dans le cas d'Oculus, il y a un truc assez intéressant puisque Oculus, en fait, il développe son propre casque, a aussi développé pour Samsung le Gear VR, qui est donc un casque comme le cardboard, hein, sauf qu'il n'est pas, pas en carton. C'est un truc, un support en plastique avec là encore des grosses lentilles, et dedans vous mettez donc les smartphones haut de gamme de chez Samsung, donc les Note 4 ou les Galaxy S5, hein, je crois que c'est réservé à ces machines-là, et c'est tant mieux parce que ce sont évidemment la qualité que vous aurez de réalité virtuelle, elle est directement liée à la qualité des écrans, donc il faudrait des écrans super, et bon c'est vrai que de ce côté-là les Galaxy Note, les derniers Galaxy Note et Galaxy S sont quand même de bons écrans. Et ils ont la capacité, ils sont quand même assez puissants, et ils peuvent donner des petites expériences VR sympas. Et en fait, on pourrait se demander pourquoi est-ce que Oculus utilise Samsung. En fait, c'est parce que tout simplement, ils essaient de tâter le terrain. Comme ça, ils y vont en sous-marin. Le Gear VR, qui jusqu'à présent avait une distribution confidentielle, va passer à l'état de produit réellement de mass market, quoi. Donc vous pourrez bientôt acheter un Gear VR dans les magasins pour de vrai, ça coûtera 200 euros à peu près. Et ça vous permettra de quoi faire. Ben, au début, pas forcément des tas de trucs, mais effectivement, au fur et à mesure, je pense qu'il y a un écosystème logiciel qui va se mettre en route. Et puis tout simplement, il faut penser qu'avec un Gear VR ben, et votre téléphone mobile, vous avez une salle de cinéma dans la poche. Et pour de vrai, c'est vous mettez votre téléphone dedans, et avec le bon logiciel, vous pouvez vous passer des films en 3D, comme au cinéma, avec une qualité d'image très respectable, et voilà, une immersion totale et une discrétion totale.
Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est
bon. Et ça peut, disons que ça peut commencer comme ça. Voilà, on va dire qu'Oculus tâte le terrain et va utiliser, on va dire, je pense en tout cas, qu'Oculus entend utiliser Samsung comme un petit peu comme un tremplin pour familiariser les gens avec ce genre d'usage. Et quand ils voudront passer à la vitesse supérieure avec des casques de meilleure qualité, des expériences plus complexes qui demanderont des machines beaucoup plus puissantes, ils passeront à de vrais casques, c'est-à-dire Oculus ou Vive ou quoi que ce soit d'autre.
Ok, intéressant, à suivre en tout cas, on en reparlera évidemment, réalité virtuelle, c'est un sujet, toi, je l'ai bien vu, qui te passionne et puis qu'on continuera à relayer ici. On va parler du déploiement du modèle à 64 bits. Alors, à 64 bits, il faudra peut-être rappeler un petit peu en quelques mots à ceux qui nous écoutent ce qu'on entend par 64 bits, mais on a vu de plus en plus fleurir les annonces marketing. Je me rappelle, je crois que c'était c'était un iPhone ou c'était un Galaxy de chez Samsung sur lesquels on nous disait « Ah, c'est maintenant du 64 bits, c'est bluffant ». Je ne sais plus ce qui avait été annoncé.
Ouais, les premiers, c'était Apple, les premiers sur le créneau du 64 bits.
Ok.
Ils avaient, dans le dernier, ils avaient mis l'avant-dernier maintenant d'ailleurs, je ne sais même plus. Bon. Donc oui, Apple était le premier sur le marché du 64 bits pour mobile.
Parce qu'il y a deux aspects dans le 64 bits, c'est évidemment qu'il faut créer des composants qui soient 64 bits, donc ça il faudra que tu déploies, mais surtout d'un point de vue OS et d'un point de vue applicatif, il faut que ça exploite les avantages du 64 bits.
Ouais, alors c'est assez un peu compliqué. Alors ben justement, on peut faire un petit point rapide. Dans 64 bits, ils sont où les 64 bits d'ailleurs, hein? Bon, ben 64 bits, c'est juste la largeur, c'est-à-dire la taille des nombres que le processeur peut manipuler. En un coup. Donc alors, c'est un petit peu des mathématiques simples, hein? Si vous avez un processeur de 32 bits, Donc comme c'est en binaire, vous avez 2 puissance 32 possibilités, donc vous pouvez manipuler des nombres qui vont entre 0 et 4 milliards, quoi, globalement. Si vous avez 64 bits, bah, vous pouvez aller jusqu'à 4 milliards au carré, tout
ouais,
simplement.
Voilà, ça.
Donc ça fait des nombres absolument énormes. Bon, alors, on peut se demander, on peut légitimement se poser la question, ça sert à quoi de manipuler des nombres aussi énormes que ça ? Alors la réponse, elle n'est pas facile, elle n'est pas simple du tout. Le 64 bits, il y a l'aspect adressage, et donc c'est pour ça que beaucoup de processeurs maintenant sont 64 bits, tout simplement parce que ça permet au processeur d'utiliser simplement de très très grandes plages de mémoire, parce que quand je dis 0 à 4 milliards, ça peut être 4 milliards d'octets, et donc ça veut dire que si vous utilisez des registres d'adresse, c'est-à-dire pour aller chercher les données en mémoire qui font 32 bits, vous avez 4 milliards de possibilités, donc vous pouvez adresser 4 gigaoctets. Et 4 gigaoctets, c'est pas énorme finalement. Donc on peut se dire, si on a des registres plus larges, de 64 bits, on peut adresser une quantité de mémoire absolument gigantesque, gigantesque au folle, et on est tranquille. Donc ça, c'est un des avantages du 64 bits. Bon, les processeurs ont utilisé bien plus de 4 gigaoctets de mémoire bien avant le 64 bits, en utilisant divers petits hacks, en rajoutant des bits par-ci par-là, ça se fait déjà depuis très longtemps. Donc c'est juste plus simple et plus élégant, mais c'est pas forcément non plus rédhibitoire. Cela dit, pour les mobiles, ça n'a aucun intérêt, puisque aucun mobile n'a plus de 4 gigaoctets de mémoire.
Ouais.
Et aucun mobile ne fait de calcul scientifique, il en a besoin d'énormément, de manipuler des nombres énormes, quoi. Donc, à moins de faire des programmes vraiment très pointus, qui utilisent particulièrement ça sert strictement à que dalle, en dessous de 4 bits. Faut le dire.
Donc, c'est vraiment un argument purement marketing, on est d'accord, pour les mobiles.
Oui et non. En fait, quand on parle de processeurs 64 bits, le fait qu'ils soient 64 bits est en fait secondaire. Parce qu'on parle en vérité d'architecture de processeurs qui sont différentes de toute façon des processeurs 32 bits qui les ont précédés. Mais le fait que ce soit 64 bits, en fait, n'est pas réellement déterminant. Bon, par exemple, chez ARM, qui équipe la quasi-totalité des téléphones mobiles, c'est l'architecture ARM. Bon, avant, on avait des Cortex A15. En 2014, donc ils étaient 32 bits. Ils avaient une certaine efficacité, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire un certain nombre de trucs simultanément. Ils pouvaient exécuter un certain nombre d'instructions simultanément. Bon. Maintenant, on commence à avoir des Cortex A57 qui sont 64 bits, mais qui surtout ont une architecture totalement différente. Ils exécutent, leur pipeline est différent, ce qui fait qu'ils peuvent exécuter plus d'instructions à la fois. En fait, ils sont plus efficaces. Mais ils ne sont pas plus efficaces parce qu'ils sont sur 64 bits. Ils sont plus efficaces parce qu'ils ont des architectures plus efficaces. Mmh. En général, ce sont des processeurs qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus larges, qui donc peuvent exécuter plus d'instructions simultanément ou être plus efficaces dans la prédiction des branchements, utiliser mieux les caches, enfin, en tous les cas, ce sont des processeurs plus complexes, et c'est parce qu'ils sont plus complexes qu'ils sont plus efficaces, et c'est parce qu'ils sont plus efficaces qu'on a intérêt à avoir des processeurs Cortex A57 plutôt que des Cortex A15, mais pas parce que les Cortex A57 sont 64 bits. En fait, ils sont 64 bits tout simplement parce que c'est plus simple. Pourquoi c'est plus simple? Tout simplement parce que les processeurs ARM ne vont plus se limiter, et ne se limitent d'ailleurs déjà plus aux téléphones mobiles, mais ils équipent aussi des ordinateurs et des serveurs sur lesquels le 64 bits peut être utile. Et tout simplement, on a une ligne unique, les Cortex A57, on en retrouve aussi bien dans les téléphones mobiles que dans les microserveurs. Et dans les microserveurs, le fait de 64 bits est utile. Mais finalement, dans les téléphones mobiles, le fait de 64 bits n'a strictement aucun intérêt, pour le moment, en tous les cas. Donc voilà, ça, c'était un point qu'il fallait faire, je pense. Effectivement, dire un processeur à 64 bits et le vendre parce qu'il est 64 bits, c'est du marketing.
Ouais, ok.
Néanmoins, il est vrai que les processeurs 64 bits ont, en général, des architectures plus complexes et plus efficaces que les processeurs 32 bits qui les ont précédés. Mais c'est juste parce qu'ils sont plus sophistiqués, tout simplement. Mmh. Bon. C'est bon, j'ai pas trop.
Non, c'est bon, non, c'est très clair. C'est très clair. Bon. Et du coup, on en arrive au Cortex A72.
Oui, alors justement, donc effectivement, donc dans les téléphones mobiles actuellement, il y a pratiquement il y a encore beaucoup, beaucoup de 32 bits, quoi. J'ai l'air pratiquement que du 32 bits, mais c'est un peu exagéré, mais il y a encore beaucoup de 32 bits. Donc en fait, il faut savoir que ARM, comme Intel, a ses lignes de processeurs. Donc, j'ai sans doute déjà dit, on avait les Cortex A8, puis A9, puis A15. Bon, maintenant, on a aussi toutes les lignes A7 pour les entrées de gamme. Et ils ont sorti donc une ligne qui est haut de gamme et qui est... Enfin, haut de gamme. Ils ont sorti une Lynxon 4 bits qui sont les Cortex A57 et A53 qui commencent donc à être utilisés dans qui commencent à peine hein, puisqu'en fait ils ont été annoncés l'année dernière, donc ils commencent à être utilisés dans des mobiles plus ou moins de haut de gamme, parce que les Cortex A53 se retrouvent aussi dans des milieux de gamme en fait. Ce sont des sons de 4 bits, mais un petit peu moins efficaces que les A57. Bon voilà, bon. Tout simplement, hein, je veux dire, c'est comme quand vous avez un Core i3, i5, i7, intuitivement, vous dites que le i7 est plus puissant que le i5, est plus puissant que le i3. C'est, et en général, c'est plus ou moins vrai, même si bon, dans les faits, c'est plus compliqué que ça.
La vraie question, c'est est-ce que les différences de prix justifient les différences en termes d'usage, quoi. Enfin, bon.
Exactement, et ça, c'est pas du tout clair dans tous les cas, ça c'est certain. Enfin bon, toujours est-il que ARM, donc il doit constamment rester sur la brèche, hein, a annoncé les Cortex A72, qui sont les processeurs qui vont très très logiquement... Hein, être les ceux qui vont après les A57, et donc ce sont encore des processeurs 64 bits. Bon, là, ils en ont profité justement pour... Alors, il faut savoir que ARM, c'est une entreprise qui ne fait que des plans, elle ne produit pas de processeurs, elle fait des plans des processeurs.
Ils n'ont pas d'usine en tant que telle qui font les processeurs.
Exactement, ils soumettent les plans à d'autres usines qui les fabriquent, hein, des usines comme Samsung ou Global Foundry, enfin bon.
Ils font plus facile.
Oula, tu sais qu'on peut se poser la question. Je pense effectivement qu'au niveau ingénierie, c'est clair qu'être fondeur et faire les miniaturiser chaque année comme ça les composants, c'est extrêmement complexe. Mais bon.
Ouais.
Toujours est-il qu'eux, ils font les plans, mais après, ils les vendent, et c'est comme ça qu'ils vivent. Et c'est comme ça qu'ils font des millions, des centaines de millions de dollars par an, voire des milliards. Ils ont un chiffre d'affaires énorme, hein. Ils ont une croissance absolument faramineuse grâce à l'essor de la mobilité, hein, puisque c'est vraiment leur créneau. Et donc, les A72, bon, ce sont des processeurs du futur, hein, puisqu'ils ils commenceront à être gravés que l'année prochaine. Et ce sont des processeurs qui, a priori, vont offrir 3,5 fois la puissance des Cortex A15. Bon, c'est les données constructeurs. Hein. Donc, on peut dire environ 3 fois ceux d'un téléphone actuel, on va dire, puisqu'il y a encore beaucoup de téléphones qui sont Cortex A15 ou analogue, hein, ou Crate. Donc, globalement, on est sur, sur une remise à jour du processeur, mais aussi de la carte graphique. On va passer au Mali 880, donc, puisqu'ils ont non seulement des processeurs, mais aussi des cartes graphiques qui sont utilisées par, par un certain nombre, pas grand monde en fait. Il faut lire, les cartes graphiques ARM ne sont pas utilisées énormément. Mais bon, voilà, donc ils ont des trucs clés en main. Et puis ils vont aussi mettre à jour leur système de liaison intercomposant à l'intérieur du système sur puce. Si on appelle ça un système sur puce, c'est pas pour une raison, c'est parce que dans la puce, il y a tout un système, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs blocs fonctionnels. Il y a le processeur graphique, mais il y a aussi les DSP, il y a aussi tout ce qui peut avoir attrait donc au décodage vidéo, etc. Ou ça peut être le modem aussi d'ailleurs, ou la gestion des entrées-sorties. Et donc tout ce petit monde, en fait, comme dans un gros PC, il y a des bus, il y a des échanges de données entre, et en fait ils suivent un protocole qui s'appelle le Core Link, et le Core Link va être mis à jour aussi donc dans cette version pour donc supporter la DDR3, la DDR4, pour augmenter les tout ce qui est effectivement les échanges entre les processeurs, quoi. Alors bon, c'est vrai que c'est pas très intéressant de dire comme ça, puisqu'on va dire c'est forcément chaque année les processeurs, les mecs ils font des designs de processeurs qui sont plus puissants que l'année d'avant. C'est un peu vrai. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que le A72 a d'ores et déjà été adopté par MediaTek. Alors MediaTek, c'est pas un constructeur très connu, hein, mais pourtant c'est quelqu'un qui fait des designs de systèmes sur puce et qui les vend. C'est un Chinois ou un Taïwanais, je sais plus. Bon, enfin bon, je sais pas si c'est Hong Kong ou Taïwan.
Regarder.
Mais bon, voilà, tu me corrigeras. Et cela dit, sa spécialité, c'est l'entrée de gamme et le marché chinois, globalement. Et on retrouve des Mediatek en France, dans les Wiko, par exemple, entre autres. Hein.
Ah oui.
Donc, des Mediatek, ce sont des processeurs qu'on retrouve dans l'entrée de gamme et qui, pour l'instant, en fait, sont d'ores et déjà, offrent une puissance très correcte, quoi. Mais qui sont, on va dire, assez loin des ténors du genre. Et pourtant, Mediatek a déjà une licence du A72 et commence déjà à étudier la production du A72. Donc, il y aura des A72 Mediatek, ce qui démontre, si tu veux, une belle montée en gamme en fait des producteurs chinois, Et c'est clair que, autant sur le marché chinois que sur le marché d'entrée de gamme occidental, on va avoir une démocratisation du 64 bits assez rapidement, en fait. Disons, l'année prochaine, on commencera à avoir, avoir beaucoup de solutions, de processeurs très puissants, potentiellement en tout cas très puissants, qui vont être disponibles même dans des marques comme d'entrée de gamme, comme Wiko, Alcatel ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir ça. C'est vrai que les téléphones qu'on prend pour des téléphones au rabais ne le seront plus trop, en fait, dans un avenir proche.
C'est-à-dire que l'entrée de gamme a commencé à devenir une définition assez complexe. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était le OnePlus One. On en arrivait à un téléphone avec des prix enfin, d'entrée de gamme et pour autant avec des specs assez convaincantes. Donc c'est vrai que cette notion d'entrée de gamme, haut de gamme, etc. dans les smartphones, maintenant quand la texture est dorée et il y a une pomme dessus, c'est du haut de gamme et sinon ça peut être considéré comme.
Mais t'as qu'à voir les prix qui sont pratiqués par Xiaomi, Meizu ou même Youni qui est pas encore distribué en Occident, mais Youni fait des, il fait enfin, le U2 je crois de Youni est un téléphone impressionnant, hein. C'est un téléphone qui est distribué qu'en Chine je crois, mais c'est un téléphone qui a des specs qui sont comparables à celles d'un Galaxy S4 S5 et qui est vendu je crois 250 €, hein, 250 €.
Ça devient assez bluffant quand même, hein. MediaTek, c'est une entreprise taïwanaise, enfin qui est basée à Taïwan en tout cas. Ok, excellent. Une autre série de news que tu as humblement sous-titré Skynet dans ton mobile, Guillaume.
Oui, on avait un petit peu parlé en fait, mais c'est qu'aujourd'hui, lors du dernier MWC, donc il n'y a pas très longtemps, en tout cas pour moi maintenant, que ça a été, on va dire, qu'il y a eu des démonstrations, c'est Zeroth. Je ne sais pas exactement. Bon. Alors en fait, ça fait
un peu nom de méchant dans Diablo quand même, hein. Zeroth.
Ah, mais totalement. Et d'ailleurs, tu vas voir qu'on n'est pas loin. Ah. On n'est pas loin de Skynet. Hein,
c'est ça que j'aime bien aussi dans ces sujets que tu abordes à chaque fois, c'est qu'à chaque fois, il y a des petites références assez sympathiques, je trouve.
Oui, parce que, attends, donc, la plateforme Snapdragon 810, bon, alors, c'est Snapdragon, c'est Qualcomm, c'est un des grands noms du processeur dans les smartphones. Il y a énormément de téléphones qui sont équipés de Qualcomm. C'est un constructeur qui a la particularité aussi de fabriquer non seulement, enfin de fabriquer, de designer non seulement les systèmes sur puce, mais aussi l'architecture intrinsèque des processeurs. Eux, ils ont très longtemps utilisé Crate, qui était un concurrent de Cortex A15, donc c'était un processeur pas fait par ARM, compatible ARM, hein, mais qui n'avait pas été designé par ARM directement. Qui avait des performances analogues d'ailleurs au Cortex A15, et qui sortent maintenant le Cryo, qui est leur processeur 64 bits. Alors il faut se souvenir d'ailleurs que, on va dire que Qualcomm a vu un petit blanc lors du passage au 64 bits, puisque eux étaient restés sur Crate pour les processeurs 32 bits, et pour le très haut de gamme, ils avaient opté pour du ARM, des A57 hein, justement, qu'on retrouve dans la ligne 800, et là, ils sortent donc leur propre architecture 64 bits qui va s'appeler Cryo, qui va équiper donc le
flagship. Rien à voir avec le groupe de musique, hein.
Non, ni avec les jeux vidéo, s'il y en a qui s'en souviennent de Cryo. Non, personne ne se souvient de Cryo. Hein.
Non. Non, moi, ça ne me dit rien. Tout ça.
Non, c'est normal.
J'ai pas une culture game suffisamment.
Non, vous êtes trop jeune. On s'en fout. Bref, donc oui, donc les Snapdragon 810, revenons-en. Donc, il y aura donc des processeurs 64 bits Cryo et ils vont intégrer un truc. Alors, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Hein, ils ont été assez flous sur le détail du composant. Mais apparemment, comme il y a des DSP comme il y aura des DSP dedans pour traiter les images, les vidéos, tout ça, il y aura un petit composant à l'intérieur du 810 qui permettra d'accélérer tout ce qui est attrait aux tâches cognitives. C'est-à-dire. La pensée, tout simplement. Ils veulent faire penser.
C'est énorme, je trouve.
Alors, il faut savoir donc que pour l'instant, tout ce qui est un peu intelligent, un peu cognitif, comme par exemple la reconnaissance vocale sur les smartphones, elle est faite dans le cloud. Tout le monde sait que si vous n'êtes pas connecté à Internet, Siri ne vous répondra pas et Google non plus.
Typiquement, Google, tu peux mettre les langues en local et tu peux faire de la dictée vocale en local, non? pas l'interprétation, par contre, peut-être. C'est ça que tu veux dire.
Ouais, alors.
Interpréter en fait, ce qu'on dit, c'est fait traducteur, dans le cloud. Mais...
Alors, le traducteur, oui, tu peux télécharger l'anglais, par exemple, et voilà, l'anglais et le français, il traduira en anglais et français.
Reconnaître les mots dits en texte, ça se fait en local. Par contre, reconnaître ce qui est en mots, en concept, ça se fait sur le cloud, en fait.
Alors, l'interprétation des. Alors, quand tu dis OK Google, quel est le tour de poitrine de Kate Upton?
Oui.
Ça, c'est une requête qui est envoyée dans le cloud, qui est interprétée par le serveur de Google et qui ensuite est renvoyée sous format texte dans le téléphone. Et au format texte, il y a Google qui fait la recherche. Quoi.
Ok.
Ça marche comme ça parce que interpréter la voix et la traduire en mots. En phrase, c'est trop compliqué pour un téléphone mobile. D'accord. En tout cas, ça prendrait beaucoup trop de ressources, c'est pas rentable. Donc en fait, il vaut mieux envoyer la requête par internet, la faire traduire par des serveurs qui peuvent être aux États-Unis et la réceptionner, ça va plus vite que le faire en local. Bon, voilà, et ça consomme une énergie, c'est pour dire. Bon, enfin, toujours est-il que c'est vrai que les trucs qui sont un peu intelligents, comme par exemple reconnaître un morceau de musique, un truc comme Track ID ou Shazam, c'est cloud aussi. Hein. Mm-hmm. Ça se fait pas en local non plus. Bon, donc Qualcomm voudrait relocaliser, on va dire, certaines fonctions cognitives, c'est-à-dire des trucs qui n'ont pas attrait au calcul brutal, mais à des choses un petit peu plus humaines, comme la reconnaissance de forme, la reconnaissance d'écriture, la reconnaissance de la voix, dans une moindre mesure, ou même des choses un petit peu plus floues, comme par exemple les reconnaissances de contexte. Savoir que vous êtes en réunion, reconnaître que vous êtes en réunion, et donc avoir un comportement adapté. Se rendre compte que, par exemple, tu es chez ta maîtresse, et donc bloquer immédiatement les appels de ta femme, ou l'inverse. Tu
vois. Ah, les cas d'usage font rêver.
Les cas d'usage qui font rêver, n'est-ce pas? Et bon, tout ça pour dire que c'est la plateforme Zeroth, qui est donc une plateforme logicielle et apparemment matérielle, et il y aura un petit composant à l'intérieur du Snapdragon 810, et donc au MWC, il y a eu des petites démos comme ça. Donc il y a eu reconnaissance d'écriture manuscrite, reconnaissance de forme dans une photo. C'est-à-dire, bon, alors évidemment, ça fait longtemps que les smartphones savent reconnaître les visages dans une photo, mais ils ne vont pas vraiment plus loin. Alors qu'avec Zeroth, apparemment, il peut reconnaître, on va dire, beaucoup plus d'informations dans la scène. Est-ce qu'il y a des bâtiments? Est-ce qu'il y a des gens? Qui sont ces gens éventuellement, etc. Par exemple, on peut demander de faire la recherche à l'intérieur de votre catégorie de toutes les photos que vous avez prises. Tu fais recherche Tour Eiffel et il retrouve les photos qui représentent la Tour Eiffel.
Okay.
Ce genre de choses. Des trucs qui sont donc...
Ils font flipper, en fait.
Ils font un peu flipper, effectivement, puisque ton téléphone va devenir de plus en plus intelligent et comme toi, tu ne deviens pas de plus en plus intelligent, à un moment donné, il va y avoir un problème.
Au contraire, ouais.
Donc voilà, c'était Zeroth et c'est intéressant ou pas, je ne sais pas trop.
Merci beaucoup Guillaume, ça fait pas mal de petits sujets qui je pense regroupent bien la chronique des composants. Faites-nous vos retours par commentaire sur le site techcafé.fr et sur éventuellement Twitter techcafé_fr et évidemment sur iTunes vous pouvez déposer vos commentaires. Merci beaucoup Guillaume, en fonction des retours qu'on aura, on réitérera je pense ce hors-série. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous d'ici la semaine prochaine dans 15 jours. Ciao.
Ciao.